Africa Radio et nous,
Dieneba Dembélé,
mieux vivre au 21e siècle.
Comme chaque lundi, effectivement, on se retrouve dans Mieux vivre au 21e siècle avec une nouvelle problématique et de nouveaux enjeux à étudier. Aujourd'hui, celui de la sécurité alimentaire. Le premier constat qui s'impose, c'est qu'on a gagné 2,4 milliards d'habitants au cours des trois dernières décennies. Et dans les 30 prochaines années, eh bien, le nombre d'habitants va encore augmenter de 2,4 milliards avec, d'après les projections de l'ONU, des incertitudes hautes et basses, et on estime que d'ici 2050, on sera à environ 10 milliards d'habitants. La sécurité alimentaire, comme l'environnement, qui constitue l'un des défis du coup du 21e siècle, il faut absolument satisfaire les besoins alimentaires des populations. Il faut que ce soit un challenge à part entière pour tout et chacun. Et nous en parlons ce matin justement avec Guillaume Compin, qui est chargé de campagne agriculture et sécurité alimentaire chez Oxfam, cette organisation internationale de développement. Bonjour Guillaume.
Bonjour Nina.
Alors j'ai évoqué dans cette introduction plusieurs chiffres, est-ce que vous pouvez les commenter ?
Effectivement, c'est un vrai challenge qui s'offre à nous en tant qu'habitants de la planète.
Oui.
Il y a évidemment un enjeu de nourrir le monde qui n'est pas nouveau, mais en réalité les thématiques autour de la sécurité alimentaire sont beaucoup liées à l'accès, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un enjeu de production, mais surtout à ce stade un enjeu de distribution qui est inégalitaire entre les différentes populations mondiales, et c'est surtout ce challenge en fait qui va devoir être réglé au mieux dans les prochaines années et les prochaines décennies si malheureusement les choses continuent à traîner.
Effectivement, le challenge est d'autant plus compliqué quand on considère l'actualité, avec, comme on l'a évoqué largement sur cette antenne, la pandémie Covid qui a eu ses impacts, ses conséquences, qui a isolé des populations. Et ça reste à craindre aussi quand on voit ce qui se passe actuellement du côté de l'Asie. Mais nous, on va plutôt s'établir sur le continent africain et voir ensemble les différentes conséquences qu'Oxfam a pu observer peut-être depuis le début de cette pandémie en 2019 en matière de sécurité alimentaire.
On a constaté que la pandémie de Covid avait isolé beaucoup de personnes, évidemment. Alors c'est le cas partout dans le monde, mais dans certains pays d'Afrique, ça a été particulièrement violent en termes d'accroissement des inégalités, parce que c'est souvent les personnes qui étaient les plus vulnérables qui se retrouvaient au chômage ou qui ont connu des ruptures d'approvisionnement alimentaire. Avec la situation actuelle liée à la guerre en Ukraine,
exactement,
qui a aggravé
la
situation. Donc il y a des chiffres qui estiment que 28 millions de personnes en Afrique de l'Ouest sont actuellement dans une situation de crise alimentaire aiguë, et que ce chiffre pourrait monter à 38 millions au moment à la fin de la période de soudure, donc à la fin de l'été 2022, si des mesures d'urgence sont pas prises. Donc effectivement, il y a une accumulation en fait des crises, quoi. C'est-à-dire que la pandémie a porté un coup très fort à ces questions de sécurité alimentaire, mais il y a vraiment un effet, ce qu'on appelle un effet cocktail chez Oxfam, c'est-à-dire le cumul en fait de la pandémie de Covid, mais aussi des conflits, parce que en réalité, deux tiers des personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire se situent dans des pays où il y a des conflits.
Oui, c'est ça, oui.
Et évidemment, la guerre en Ukraine et ses impacts sur les denrées alimentaires en particulier viennent rajouter une couche à cette crise qui devient vraiment très très aiguë dans certains pays.
Bah justement, quelle sorte de stratégie commence déjà à se mettre en place pour régler ces soucis d'approvisionnement dus au conflit russo-ukrainien ?
Ce qui se passe, c'est déjà, il y a deux problématiques qui se posent. D'abord, l'approvisionnement concret en denrées alimentaires, sachant qu'il y a une cinquantaine de pays dont un certain nombre est situé en Afrique qui dépendent des exportations en fait notamment de blé de l'Ukraine et de la Russie à plus de 30%. Et donc pour ces pays-là, l'enjeu c'est évidemment de faire preuve de solidarité dans l'approvisionnement en ressources. Donc par exemple, tenter au maximum de débloquer des stocks alimentaires dans d'autres pays et de pouvoir rediriger ces stocks vers les pays les plus impactés. Ne pas mettre en place ce qu'on appelle des restrictions aux exportations, c'est-à-dire que certains pays sont tentés de dire on sécurise nos propres stocks et on arrête d'échanger sur les marchés internationaux, et ça peut avoir des effets dévastateurs.
Mais est-ce que vous pourriez nous illustrer peut-être sur le continent africain, sur la partie Afrique de l'Ouest peut-être, quel est le pays qui s'investit le plus ?
Je parlerai peut-être plus d'une initiative régionale qui se fait au niveau de la CEDEAO,
où
à la fois la société civile et les États commencent à se mobiliser, par exemple sur le secteur du lait, le secteur du lait c'est un secteur assez significatif de justement les déséquilibres qui peuvent exister au niveau mondial. Donc avec beaucoup d'exportations, par exemple de poudre de lait qui proviennent soit de l'Europe, soit de la Nouvelle-Zélande, et qui rendent... Pour l'instant, l'Afrique de l'Ouest n'est pas complètement autonome en lait par rapport au niveau de production et surtout de collecte. Oui. Parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu de, justement d'augmenter les capacités de collecte et de distribution du lait, parce que dans certains pays, seulement 2% du lait produit est collecté. Face à ce constat, et pour justement garantir plus d'autonomie des pays d'Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO qui a lancé à partir de 2015 et surtout depuis 2 ans une offensive lait, dont l'objectif est d'augmenter d'ici 2030 à 25% le taux de collecte de lait qui serait local. Du coup, c'est-à-dire que le lait collecté est transformé. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest proviendrait à 25% au minimum de producteurs locaux. Donc on voit qu'il y a un gros challenge d'augmenter les capacités, mais justement donc ça passera par des soutiens financiers et un enjeu aussi de protection des marchés avec peut-être des taux de douaniers qui doivent être, d'ailleurs les tarifs extérieurs communs doivent être renégociés en 2023 sur certains produits, notamment sur le lait, et donc peut-être aussi un enjeu de davantage protéger les filières locales. Et donc chez Oxfam, on a pas mal aussi soutenu justement des organisations de producteurs qui se mobilisaient pour à la fois pour mettre un peu la pression à la CEDEAO pour agir, et puis aussi par exemple discuter avec des grandes entreprises agroalimentaires comme Danone, Lactalis, pour voir comment on peut rééquilibrer ce marché et davantage faciliter aussi la création d'emplois. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, parce que aujourd'hui on importe beaucoup de poudre de lait qui ensuite et on réinjecte en fait notamment de l'huile de palme dans cette poudre de lait pour produire un produit laitier, mais du coup on favorise pas du tout donc les éleveurs et les producteurs laitiers locaux, et donc voilà, il y a un enjeu aussi pour ces grandes entreprises de revoir un peu leur politique.
Effectivement. On estime que d'ici 2050, nous serons environ 10 milliards d'habitants. Comment nourrir autant de personnes ? Évidemment, des actions se mettent en place. L'action des Nations Unies, justement, pour atteindre l'ODD 2 fin zéro, c'est le développement durable de l'agenda 2030, ça a été adopté par des chefs d'État et de gouvernement pendant un sommet sur le développement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça date déjà de 2015. Guillaume Compin, chargé de campagne agriculture et sécurité alimentaire chez Oxfam. Qu'est-ce qu'on sait depuis ?
Les choses avancent pas très vite. Bon, l'objectif voilà de fin zéro en 2030, pour l'instant on est sur plus une augmentation en fait de la prévalence de la sous-nutrition à travers le monde. On n'a pas de chance non plus, parce que c'est vrai que la pandémie de Covid n'était pas forcément prévue non plus dans l'agenda. Mais oui, c'est un vrai enjeu. Comme je le disais, il y a évidemment une priorité qui est de permettre aussi aux agricultures en fait de devenir plus souveraines, plus résilientes et de moins dépendre justement de ces marchés internationaux qui déstabilisent beaucoup et qui sont parmi les principales crises en fait, causes de ces crises. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un enjeu par exemple de déspécialiser les productions, parce que par exemple dans l'apport nutritionnel en fait de la plupart des habitants de la planète, c'est essentiellement les mêmes denrées alimentaires qu'on retrouve qui sont très très spécifiques, donc par exemple le blé, le maïs, des produits à base de viande par exemple bovine et de volaille. Et donc en réalité on a énormément spécialisé à la fois l'apport nutritionnel des gens en créant des risques en termes de malnutrition, c'est-à-dire que du coup il y a beaucoup d'apports caloriques, on se nourrit à base de céréales et de viande, mais on a beaucoup mis de côté la diversité de production, par exemple des légumineuses, par exemple davantage maintenir un régime à base de fruits et de légumes.
Donc dans ces enjeux de sécurité alimentaire, ce que vous êtes en train de dire, il faudrait reconsidérer aussi sa façon de consommer et de produire.
Oui, tout à fait. À la fois au niveau de la santé et de la nutrition, pour avoir des régimes alimentaires qui permettent d'être en meilleure forme, en fait, tout simplement, parce que la sécurité alimentaire, on pense évidemment à la production et à l'accès, mais c'est aussi un enjeu de qualité de la nutrition. Donc ça, c'est extrêmement important.
À l'heure où, justement, on a de plus en plus de scandales sanitaires, en fait, ce serait quoi la solution? Ce serait d'arrêter de commercialiser des aliments industrialisés, arrêter d'en produire tout simplement.
Évidemment.
Enfin, comment se positionnent par exemple les Nations Unies sur cette question-là, quoi? On a l'impression que, si vous voulez, la machine est lancée et qu'on ne peut plus l'arrêter.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs enjeux en termes des normes sanitaires. Il y a évidemment un enjeu de davantage peut-être augmenter les contrôles, permettre à ce que ces productions aussi se diversifient et se relocalisent. C'est-à-dire qu'effectivement, sur des chaînes de production qui sont industrielles, qui font du volume, parfois on peut se retrouver avec des aliments qui réalisent des trajets à travers le monde énormes. Et donc, il y a les enjeux de chaîne du froid, de s'assurer que les bactéries ne sont pas présentes, peuvent évidemment aussi se produire. Donc, ce n'est pas qu'une question de nourriture industrielle, donc forcément plus garantie, saine et sans problème. Après, ce qui est sûr, c'est que dans certains pays, les conditions peut-être de sanitaires sont plus compliquées. Et justement, il y a un enjeu au niveau des Nations Unies, mais également au niveau des ONG, par exemple, de Solidarité Internationale, mettre le paquet, si je peux dire, sur aussi, par exemple, tout ce qui est qualité de l'eau. Oui. Par exemple, Oxfam a beaucoup de programmes où on soutient, dans de nombreux pays à travers le monde, l'assainissement, des moyens en fait, de s'assurer que l'alimentation est saine et ne fait pas courir le risque de maladies aux personnes qui se nourrissent.
On évoquait donc l'action des Nations Unies pour atteindre les nouveaux objectifs de développement durable d'ici à 2030 et on disait que c'était compliqué. Il faudrait que la faim soit éliminée et que les personnes les plus vulnérables, y compris les nourrissons, on a évoqué tout à l'heure le lait, aient un accès à une alimentation saine et nutritive comme vous venez de l'évoquer. L'objectif aussi c'est que toutes les formes de malnutrition soient éliminées et là encore c'est un défi qui nous paraît compliqué, voire inaccessible.
Oui, tout à fait. Et c'est justement l'enjeu de cette alimentation plus équilibrée, parce qu'en fait, on se retrouve avec deux formes extrêmes en fait, de malnutrition. À la fois, des personnes qui sont en carence de nutriments, qui ont des problèmes d'accès à l'alimentation. Et puis, à l'inverse, une alimentation souvent industrielle qui, comme je le disais tout à l'heure, est très riche en céréales, très carnée, et qui peut poser des problèmes d'obésité. Malheureusement, souvent les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, peuvent être touchées par ces deux fardeaux.
Mmh. Plus d'un milliard de personnes obèses dans le monde, et avec une explosion en Europe.
Et donc, il y a un enjeu, encore une fois, de relocaliser les productions pour qu'elles soient plus diversifiées et qu'on puisse accéder dans son propre pays à différentes denrées et qu'on ne soit pas dépendant uniquement de tel ou tel produit qui serait le seul produit accessible et donc qui fait qu'on le surconsomme et qu'ensuite, on a des conséquences délétères sur la santé.
Comment, selon vous, la diaspora peut œuvrer depuis l'Occident, soutenir, si vous voulez, toutes les initiatives sur le continent africain en matière de sécurité alimentaire ?
Ce qu'on voit beaucoup avec nos confrères et nos consoeurs qui sont basés en Afrique de l'Ouest, de nombreux projets, on voit vraiment une évolution des projets où il y a beaucoup plus de volonté d'autonomie sur la durée des initiatives locales et pas forcément effectivement dépendre de virements qui proviendraient des pays, des diasporas, mais aussi investir soit par exemple des gens qui auraient été formés, je sais pas, en Europe, ou qui voudraient s'investir sur des projets locaux et qui viendraient apporter pas seulement l'argent, mais aussi les compétences qu'ils ont pu acquérir. Et ça, on le voit par exemple sur des laiteries, des projets de transformation qui visent à pérenniser en fait ces initiatives. Après, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, les enjeux sont extrêmement liés entre ce qui peut se passer par exemple au niveau de l'Europe et des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a aussi des personnes qui se mobilisent tout simplement avec les ONG, par exemple en France, qui deviennent bénévoles et qui contribuent avec nous à sensibiliser aussi les pouvoirs publics sur le fait qu'on ne peut pas s'engager sur des politiques de développement et puis à l'inverse, complètement déstructurer les marchés des pays tiers et aussi... créer justement par exemple, il y a pas mal de conférences que nous on organise où des personnes issues de diaspora.
Et le nombre de personnes qui y prennent part, est-ce qu'il est croissant ?
Il y a une vraie volonté d'engagement de la part des jeunes, parce qu'on dit souvent que les jeunes
sont pas... Les plus jeunes, effectivement, on les voit. En plus, on a eu la vague Greta Thunberg sur les questions environnementales. Donc, on voit que sur les questions d'avenir, ils sont vraiment très, très actifs. Et justement, ça m'amène à vous poser une autre question sur l'espérance de vie. Quelles pourraient être les conséquences de cette insécurité alimentaire sur le continent africain en matière d'espérance de vie et en comparaison avec... ce que nous vivons en Occident, en France par exemple.
Ce qui est sûr, c'est que tant que les enjeux de malnutrition et de sous-nutrition, évidemment, ne vont pas être au mieux résolus, au pire diminués, On va se retrouver avec des problématiques de développement, parce que ça se joue dès le développement du nourrisson, et donc avec les carences qui sont issues de problèmes d'alimentation, l'espérance de vie forcément reste plus faible. Oui. dans les pays qui ont plus de difficultés d'accès à une nutrition de qualité et sécurisée. Mm-hmm. Donc effectivement, ça reste un enjeu, et justement nous ce qu'on essaye de faire, c'est de se mobiliser autant qu'on peut évidemment pour résoudre ces enjeux. Et de nouveau, je pense que ça passe vraiment par une plus grande autonomie de la production. Oui. Et une plus grande diversité.
Mais
de la production,
si on doit fixer une année, un horizon, quand est-ce que les pays d'Afrique de l'Est seront en capacité de produire leurs propres aliments? 2030, là, ça paraît...
J'ai envie d'y croire, et oui, je l'espère de tout cœur, et nous, on va tout faire pour que l'échéance se rapproche au plus vite. Mmh. Mais ça passe évidemment par des projets aussi de partenariat sur, par exemple, nous, on s'investit beaucoup pour appuyer des producteurs locaux sur, par exemple, des projets d'agroécologie.
Oui.
Donc ça passe, par exemple, au Sénégal, on a des partenaires qui forment des jeunes fermiers et agriculteurs à des projets d'agroforesterie pour permettre justement d'avoir une production alimentaire qui soit plus riche, qui soit plus résiliente aussi aux impacts du changement climatique, parce qu'en fait tout ça va de pair. C'est-à-dire que pour garantir une sécurité alimentaire, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont 50% plus touchés par la hausse des températures que la moyenne mondiale.
Oui, ça, et puis sécheresse, inondation, voilà. Donc ça complique le travail.
Donc en fait, ça complique le travail, mais justement, la bonne nouvelle, c'est que à travers, alors je dis pas que c'est aussi un miracle, mais l'agroécologie et toutes les techniques qui lui sont liées en termes de diversité des cultures, de rotation des cultures, et finalement retrouver, parce que je dis bien retrouver, une forme de savoir-faire en fait.
Oui.
qui est là, qui est déjà là, qui est traditionnel, que ce soit en Afrique mais dans plein de pays.
Oui.
Et plutôt que dépendre de justement des marchés internationaux, dépendre des engrais, de tous les intrants qui complexifient aussi l'agriculture finalement, et ben c'est retrouver, et ça il y a énormément de programmes qu'on soutient, retrouver des formes d'agriculture qui sont peut-être plus, je dirais pas plus simples, mais moins productiviste en oui. fait, et qui permettent justement de à la fois produire en fait,
oui.
parce qu'on nous dit souvent l'agroécologie c'est pas productif, mais en fait c'est faux. Quand elle est bien réalisée avec un certain nombre de compétences qui s'acquièrent en fait,
mm-hmm.
Et on peut parvenir à un niveau de production qui est tout à fait correct,
oui.
en se prémunissant en fait de davantage de risques climatiques, parce qu'on permet aux cultures d'être plus résilientes, par exemple en termes d'érosion des sols,
oui.
De richesse en fait en nutriments sur la durée. Donc en fait, ça peut être vraiment une logique qui est gagnante à différents égards et qui doit être soutenue davantage. Il y a déjà des projets autour, par exemple, de la Grande Muraille Verte,
oui.
qui visent à massifier en fait cette agroécologie. Et ça, c'est vraiment un chantier qui est énorme, mais qui est plein de perspectives encourageantes et qu'il faut absolument soutenir. Nous, en tout cas, on est très mobilisés sur ça. On soutient également un projet de formation des jeunes agriculteurs et des femmes aux techniques agroécologiques dans leur diversité, c'est-à-dire agroforesterie, mais aussi protection, préservation des sols.
Oui.
Ça, on le fait, on soutient par exemple au Burkina et au Mali, projet GESAC, qui vise justement à diffuser ce savoir. Et dans cette logique, on a vraiment envie de s'investir davantage. Et ça passe aussi en fait par la mobilisation des pouvoirs publics, les inciter à davantage investir, que ce soit les gouvernements locaux en Afrique de l'Ouest, par exemple, mais aussi, et là, pour le coup, sur les enjeux de solidarité internationale, la France, nous, par exemple, à Oxfam France, on met aussi la pression sur, par exemple, l'Agence française de développement pour qu'elle s'investisse beaucoup plus sur le financement de projets d'agroécologie et non pas d'agriculture industrielle. Et rééquilibrer davantage en fait ce rapport pour que on aille vraiment dans la bonne direction, et donc
ouais.
On voit que ces enjeux sont à la fois dans des projets locaux, mais aussi et c'est là où je rejoins l'idée que les diasporas peuvent aussi s'engager dans les pays par exemple comme la France pour aussi mettre la pression,
ouais.
Pour que cette solidarité internationale soit mieux faite en fait.
Merci Guillaume Compin, chargé de campagne agriculture et sécurité alimentaire chez Oxfam, d'avoir répondu à nos questions.